Bien, on arrive sur la dernière partie de notre journée. Donc, je tiens à excuser Marie-Christine Vergiat, députée européenne, qui n'a pas pu être présente parmi nous en cette fin de journée. Donc, effectivement, on va avoir un point de vue plutôt d'un acteur hein, sur le sujet des financements. On voit bien qu'on a tourné aussi autour des financements et des processus aussi, y compris de mandatement autour des financements européens. Donc, je vais effectivement laisser la parole à Jean-Claude Boal pour nous donner un point de vue du point de vue de l'éclairage européen autour des services d'intérêt généraux.
Oui, merci et bonjour. Alors, deux mots pour vous dire d'où je parle, puisqu'effectivement, moi, je ne suis pas député européen, donc je ne vous ferai pas l'intervention que vous aurez faite, Marie-Christine Vergiat. Moi, je travaille sur Services publics et Europe depuis plus de 20 ans, dans le cadre de la société civile, puisque j'ai créé une association qui s'appelle le Comité européen de liaison sur les services d'intérêt général. Et sur ce sujet, dans mes activités professionnelles, j'ai été chargé de cette question-là au titre du ministère de l'équipement puis de l'écologie, et pendant une période au titre du Premier ministre. Donc voilà pour l'essentiel. Et j'ai eu une activité militante syndicale pendant une vingtaine d'années également, avant ces responsabilités sur l'Europe. Voilà, c'était pour un peu vous situer d'où je vais parler. Alors, il se trouve que, pour toute une série de raisons, Marie-Christine est une amie, donc voilà, mais j'ai travaillé avec elle sur les problèmes d'économie sociale aussi, mais je ne suis pas député européen. Alors, j'avais envie de commencer en vous écoutant, et notamment en écoutant la dernière table ronde. Je suis arrivé en fin de matinée, par une réflexion qui va peut-être vous surprendre. Ne le prenez pas comme une agression, mais je trouve qu'il est un peu dommage que les questions européennes viennent en fin de journée et viennent toujours en fin de journée. Comme si c'était soit un supplément d'âme, soit quelque chose qui vient perturber la pratique habituelle des activités dans votre secteur. Je ne suis pas sûr que si on avait commencé par les questions européennes, les débats que vous avez eus auraient été exactement de même nature. Parce que finalement, l'essentiel de la réglementation sous laquelle vous êtes amené à intervenir vient de l'Union européenne. Je vais un peu en parler par rapport au financement. Ce qui veut dire que un certain nombre de questions que vous vous posez sont aussi à traiter en co-responsabilité ou co, je ne sais plus comment vous avez dit là, co-construction avec l'Union européenne. Il ne faut pas s'arrêter au niveau des collectivités locales, voire de l'État français seulement. Et c'est complètement essentiel. Voilà. Alors, quand on regarde les débats européens, et c'est pour vous dire le décalage qu'il y a, certes, on commence à parler d'économie sociale, mais l'utilité sociale est un concept complètement inconnu. Donc voilà, ça pose quand même un certain nombre de réflexions, que l'on passe beaucoup d'énergie sur une définition et faire prendre en compte des choses au niveau des collectivités locales qu'elles ne pourront pas prendre en compte compte tenu de ce qu'est la réglementation qu'elles doivent appliquer, qui est d'origine communautaire. Je le dis de façon un peu directe, mais c'est quand même ça. Et je travaille avec certaines collectivités locales sur ces sujets-là. Donc voilà, l'utilité sociale, on ne sait pas exactement ce que c'est. Par contre, on commence à parler d'économie sociale, effectivement. Il y a au sein du Parlement européen, depuis maintenant au moins deux mandatures, un intergroupe sur l'économie sociale, qui, dans la mandature précédente, n'était pas d'un dynamisme extraordinaire et n'avait pas donné des résultats extraordinaires. Mais enfin, il y a quand même un rapport d'initiative du Parlement européen sur ce sujet. Chose peut-être plus intéressante et porteuse d'avenir, et c'est en sens-là où, à mon avis, il faudrait vraiment qu'il y ait un travail au niveau communautaire et intervention auprès des instances communautaires, mais un travail aussi avec d'autres réseaux d'économie sociale au niveau européen, et parce que ça n'existe pas qu'en France, bien entendu. Dans le cadre de l'acte unique pour le marché unique qu'a adopté la Commission et dont est responsable pour la mise en œuvre le commissaire Barnier, puisqu'il s'agit de construire le marché intérieur, il est fait état dans les 52 propositions, il y en a 3 qui concernent l'économie sociale et qui doivent faire l'objet d'un certain nombre de textes à venir dans l'année 2011 ou dans l'année 2012. Et aujourd'hui, la Commission vient de sortir en octobre là un premier projet de règlement qui est un règlement donc du Parlement et du Conseil établissant un programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale. Donc on est bien dans votre champ d'intervention et ça c'est quand même nouveau. Alors on est au début d'une démarche, donc c'est pour l'essentiel des questions de d'information, parce qu'il est dit qu'on ne connaît pas exactement comment ça se passe, de benchmarking, de etc., etc. Mais je vous invite quand même à regarder ce document et à intervenir auprès des instances communautaires, notamment auprès de la Commission, pour dire ce que vous en pensez. Parce qu'à mon avis, il y a des choses qui posent peut-être des problèmes. Et pour la première fois, et ça c'est peut-être une question à débattre, l'article 2 du projet de règlement définit ce qu'est une entreprise sociale. Mais il définit ce qu'est une entreprise sociale. Ce n'est pas l'économie sociale, ce n'est pas l'utilité sociale, etc. Et je vais vous lire la définition, puis après je repasserai à service public. Entreprise sociale, une entreprise dont le principal objectif est d'avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses partenaires. Elle opère sur le marché en fournissant des biens et des services de façon entrepreneuriale et innovante, et elle utilise ses excédents principalement à des fins sociales. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques. Alors, c'est sans doute une première définition qui est intéressante, mais ça n'exonère pas toutes les entreprises sociales de toute la réglementation communautaire, y compris sur la concurrence. Bon. Donc voilà, c'est une problématique qui est, à mon avis, quand même tout à fait importante. Voilà. Et il y a un deuxième thème sur lequel je voudrais insister, qui est les rapports entre l'économie sociale et les services publics, y compris dans le cadre de la réflexion communautaire sur les services d'intérêt général, donc sur les services publics, qui sont à la fois deux sujets difficiles au niveau communautaire. Prodi, quand il était président de la Commission, nous avait dit que le problème des services publics était le problème le plus politique au niveau de l'Union européenne. Et on voit que, compte tenu de la crise et d'un certain nombre de phénomènes, les instances communautaires, la Commission elle-même, commencent à se préoccuper de l'économie sociale, même si c'est à travers simplement l'idée d'entreprise. Alors, on pourra revenir dans le débat, si on a le temps, sur ce qu'est une entreprise au niveau communautaire, sur ce qu'est une activité économique au niveau communautaire, et vous verrez que c'est quelque chose de très large, et c'est pour ça que le rapport entre économie sociale et services publics est tout à fait essentiel. Parce qu'ils sont tous les deux soumis donc à la réglementation communautaire, à l'idéologie néolibérale, et à des débats difficiles qui ont été peut-être rendus encore plus difficiles depuis l'entrée des 10 pays de l'Europe de l'Est, puisque quand on parle coopérative, quand on parle social, etc., à des ressortissants, y compris aux députés qui viennent de ces pays-là, au gouvernement de ces pays-là dans les instances communautaires, j'allais dire, ils voient rouge. Pour eux, coopérative égale communisme. Et on n'est pas sorti de cette idée-là. Donc, comment aborde-t-on ces questions d'une économie solidaire dans ces conditions-là? Il ne faut pas croire qu'on vit dans un monde où il n'y a que nos préoccupations à nous et que la France et que la façon dont nous abordons les choses qui prise en compte. Et quand on négocie, qu'on discute avec au sein des instances communautaires, ben la Lituanie, elle pèse autant que la France dans les débats. Au niveau des votes, à certains moments, ça peut se différencier, mais dans les débats, elle pèse autant. Alors, je prends la Lituanie, mais je pourrais prendre Chypre ou Malte, si vous voulez. Donc, voilà, on a un certain nombre de questions de ce type-là à voir. Et comme beaucoup d'organismes de l'économie sociale fournissent des services publics, notamment dans le domaine social, je pense que petit à petit, la réglementation communautaire, et d'ailleurs c'est déjà le cas, impacte complètement les activités. notamment par rapport au financement. Puisque pour le financement, toutes les associations et tous les organismes qui reçoivent, entre guillemets, des subventions, sont soumis à la réglementation communautaire, à ce qu'on appelle, si vous voulez, de façon rapide, le paquet Monte Cross, c'est-à-dire du nom des deux commissaires qui l'ont adopté, et qui, suite à un arrêt de la Cour, définit les conditions dans lesquelles on peut justement fournir des subventions ou en tout cas des compensations pour des obligations de service public à une entité qui fournit un service public. Alors je vais essayer de vous résumer ça très rapidement pour ne pas être trop long, mais vous allez voir que ça pose un certain nombre de questions nouvelles qui conduisent finalement le gouvernement français à sortir la circulaire du 18 janvier 2010, la dite fameuse circulaire Fillon, qui implique maintenant, dans le cadre de la co-construction si vous voulez, mais un appel à projet. Et donc c'est un processus complètement différent de ce qui se passait précédemment. Et on n'échappera pas à cet appel à projet. Il ne faut pas croire qu'on pourra continuer éternellement comme on faisait avant. Et qui conduit également le Sénat, dans un de ses rapports, à dire que si on veut respecter à la fois, compte tenu de l'ensemble, la réglementation française et la réglementation communautaire, les collectivités locales ne savent plus comment faire parce qu'elles ne peuvent pas respecter les deux réglementations en la fois puisqu'elles sont contradictoires. Donc quand je dis que ça aurait pu modifier un petit peu vos débats, vous voyez que ce n'est pas une affirmation gratuite. Voilà, alors comment ça se passe suite à l'arrêt Altmark et au paquet Monte Cross qui est ailleurs en cours de révision. L'arrêt Altmark dit quatre choses, pour qu'il ait service public, il y a quatre conditions cumulatives à satisfaire. Première condition, il faut qu'il y ait un acte public de la puissance publique qui définisse les missions ou les obligations de service public. Et cet acte public, vous allez le voir, suite à la directive service, conduit tout droit au mandatement par la puissance publique. Deuxièmement, le calcul de la subvention ou des compensations pour les surcoûts qu'entraînent les obligations de service public doivent être transparents et connus à l'avance. Troisièmement, il ne doit pas y avoir de surcompensation, c'est-à-dire que la compensation ou la subvention doit simplement couvrir les surcoûts qui sont dus éventuellement aux obligations de service public. Et quatrièmement, il doit y avoir un appel d'offres, et s'il n'y a pas appel d'offres, la compensation est calculée en comparaison avec une entreprise comparable, moyenne, correctement gérée, correctement équipée, avec un bénéfice raisonnable. Et c'est cette quatrième condition qui pose le plus de problèmes, parce qu'elle est assez vague et on ne sait pas exactement ce qu'elle veut dire. Ce qui a amené les instances communautaires et la Commission, notamment, à justement prendre des initiatives et sortir des textes, le fameux paquet Monte Cross, ou le paquet Altmark, selon les dénominations, etc. Et dans ce paquet, si vous voulez, pour résumer de façon très schématique, vous avez trois grandes catégories de services publics qui sont pointées. Les petits services publics, ceux qui font l'objet d'une subvention inférieure à 200 000 euros, ce sont les chiffres actuels. Ils vont sans doute changer au début de l'année prochaine. Mais 200 000 euros sur 3 ans, c'est-à-dire grosso modo 66 000 euros par an, ça fait une association de 3-4 personnes maximum, mais même pas une, deux personnes, s'il y a des locaux. Bon. On considère que c'est automatiquement compatible avec le marché intérieur, qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence, que ça n'a pas d'effet sur les échanges entre les États membres. Donc, les collectivités peuvent à peu près faire ce qu'elles veulent. Quand même, elles sont soumises à des appréciations et il ne doit pas y avoir de discrimination, et tout ça, mais elles ont une très large liberté. Les services publics moyens, ceux qui sont donc entre ce seuil-là et 30 millions d'euros, c'est l'État membre qui contrôle. Et au-dessus de 30 millions d'euros, les gros services publics, il y a obligation pour l'État membre de notifier à la Commission qui donne une autorisation ou non. Et on arrive, y compris dans l'économie sociale, dans certains secteurs, à des subventions qui sont de cet ordre-là. Faut pas se leurrer, surtout si on veut vraiment jouer un rôle économique. Donc, on est là dans un processus qui modifie complètement les choses. Et la directive service, qui vient se greffer là-dessus, même si ce n'est pas une directive de libéralisation, oblige au mandatement. Donc, on retombe sur la première condition. Et c'est justement cette histoire de mandatement. Parce que quand il y a mandatement, donc définition des obligations de service public par la puissance publique, ça veut dire en droit français, obligatoirement, le marché public, donc la concurrence. Et là, c'est la réglementation française qui, étant d'une certaine façon plus restrictive que celle de l'Union européenne, vient nous poser problème, d'autant plus que les seuils des marchés publics sont inférieurs à ceux de l'Union européenne en France. Alors, en Allemagne, ça dépend de la compétence. Si le service en question est de compétence fédérale, c'est le Bund. Si c'est de compétence des Länder, c'est le Länder. Ça dépend des compétences, ça dépend du sujet traité, donc. C'est pareil pour tous les pays fédéraux, d'ailleurs. Mais il se trouve que je parle à des Français, à la France, qui est un pays unitaire, avec une décentralisation qui n'en est pas une. Donc, on pourra, si vous voulez, discuter de la décentralisation, y compris de celle de Sarkozy, mais on sera là un peu plus tard que ce qui est prévu. Mais bon, voilà. Alors, ces seuils vont changer, et vous allez voir qu'ils vont changer parfois en bien, parfois en pas bien. Puisque pour les petits services publics, le seuil passerait de 200 000 euros sur 3 ans à 150 000 euros par an. Mais 150 000 euros par an, c'est là que ça fait une association de 4 personnes. Mais pour les seules collectivités locales de moins de 10 000 habitants. Alors, dans les débats que nous avons eus avec Almunia, donc le commissaire chargé de ces questions, il nous a dit qu'il n'était pas fermé sur les seuils, et notamment, comme tout le monde a estimé que ce seuil de 10 000 habitants était complètement absurde, il est possible qu'il saute, que dans le texte final, il ne soit pas repris. Mais on en est là. Bon, alors les réseaux de villes au niveau européen, la société civile, le comité des régions, etc., ont rouspété contre ça, mais la mobilisation pourrait être beaucoup plus forte. Le seuil pour les services publics moyens est rabaissé de 30 millions d'euros à 15 millions d'euros, ce qui va créer des difficultés supplémentaires, et au-delà de 15 millions d'euros, donc il faudra notifier. Par contre, on élargit les exceptions de notification, quel que soit le montant de compensation. Avant, il n'y avait que l'hôpital et le logement social. Et maintenant, il y a un certain nombre de services sociaux, puisque vous avez santé, garde d'enfants, accès au marché du travail, soins et inclusion des groupes vulnérables, etc. Et puis, il y a des dispositions particulières pour les ports et les aéroports que je laisse de côté pour l'instant. Donc, des choses qui peuvent être intéressantes comme cet élargissement de l'exclusion, quel que soit le montant de la compensation, mais aussi des rétrécissements dans d'autres domaines. Et donc, la culture, le sport, la médiation sociale, par exemple, pour prendre des exemples que vous avez cités tout à l'heure, sont dans le cadre de ces seuils. Donc voilà, quand je dis que la réglementation communautaire a un impact très fort, ça me paraît tout à fait important. Et donc ceci a amené le gouvernement français à sortir sa circulaire en disant maintenant les relations se feront, y compris quand ça sera une prestation qui sera à l'initiative de l'association ou de la société civile, par appel à projet, de façon qu'il puisse y avoir mandatement. Voilà. Pour conclure, puis après, si vous voulez, on pourra répondre à des questions. Moi, je pense que ça pose une série de questions importantes. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire, sur lequel je souhaite depuis longtemps qu'on le fasse avec l'économie sociale, sur le rapport entre économie sociale et services publics, dans le contexte communautaire, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas pensé. Et ce n'est pensé, ou c'est dans l'impensé de tout le monde. En tout cas, ce n'est pensé par personne, ni par ceux qui travaillent sur le service public, ni par l'économie sociale. Et pourtant, de temps en temps, une fois par an, deux fois par an, les deux intergroupes, économie sociale et service public, puisqu'il y a un intergroupe également service public au sein du Parlement européen, se réunissent ensemble, mais le président de l'intergroupe économie sociale, il est là, il est à la tribune, il écoute, il ne dit pas un mot. Donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'élaboration commune. On a besoin d'une élaboration commune par rapport, y compris aux enjeux que vous avez définis en dernier, là, la transition, hein, à savoir les changements de société, compte tenu des problèmes écologiques, des problèmes sociaux qui se posent dans nos sociétés au niveau mondial. Et c'est pareil pour l'utilité sociale. L'utilité sociale n'est pas forcément un concept qui serait rejeté au niveau communautaire. Sauf qu'encore faudrait-il le préciser, et il ne se pose pas qu'au niveau strictement local. Et encore faut-il l'articuler avec le marché, avec ce que sont les textes, parce que sinon on n'y arrivera pas. Même si c'est pour déborder par la suite et aller plus loin, il y a vraiment un axe stratégique là à regarder de plus près. Et on ne peut pas se contenter d'expliquer comment ça se passe dans une régie et comment on fait avec les élus locaux ou les difficultés que l'on a avec les élus locaux. Ça sera largement insuffisant. Largement insuffisant, parce que même dans les réseaux des villes européens avec lesquels, quand même, j'ai quelques contacts, on a du mal à aborder ces questions-là. Pour tout un tas de raisons. Et donc, il faudrait trouver une méthode de travail qui permettrait d'aborder ça et de voir de plus près ce que veut dire la co-construction et le partenariat, mais à tous les niveaux. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord pour changer d'échelle, pour trouver de nouvelles alliances, mais il y a peut-être aussi une condition. Alors, j'ai commencé par une petite vacherie, je vais terminer par une petite vacherie. C'est aussi que les familles de l'économie sociale arrivent à se mettre d'accord. Et que ça fasse un axe de travail très important. Pour avoir participé quand même à quelques congrès du CGS, etc., je pense que ça serait pas mal. Alors, tout le monde est d'accord peut-être sur cette idée-là, sauf qu'il faudrait la mettre en œuvre.
Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Allez-y. Enfin, devant et derrière.
D'éducation développement durable qui est basée à Trappes en Yvelines. En tant qu'acteur de terrain, fait partie d'un certain nombre de réseaux, de fédérations, ainsi de suite, on a rarement l'occasion de co-construire les politiques européennes. On a déjà assez peu l'occasion d'être directement en rapport avec des services de l'Union européenne. Je vais prendre un exemple. On a bénéficié de financements européens. On est en rapport là-dessus avec des services déconcentrés de l'État, à la préfecture de département, qui eux-mêmes dépendent de services qui sont à la préfecture de région. Mais on n'est même pas en rapport direct avec la préfecture de région là-dessus. Donc on est déjà obligé de passer par une espèce de voie hiérarchique sur un dossier qui nous concerne directement. Donc, sur la définition des politiques publiques, on a un peu du mal à se sentir acteur de ça, d'autant plus que, de ce que vous avez l'air de dire, entre commissions, on a du mal à travailler ensemble, puisque le président de la commission sur l'économie sociale ne dit rien quand il se retrouve avec ses collègues. Donc, co-construire les politiques européennes, je veux bien, mais comment ?
Non, je me trompe. Voilà. Sur la première question, ce que dit Pascal, du point de vue aujourd'hui des instances communautaires, services d'intérêt général, services et services publics, c'est quasiment équivalent. C'est équivalent. On a glissé dans le vocabulaire, y compris de la Commission, de services d'intérêt général ou services économiques d'intérêt général vers services publics de plus en plus. Alors c'est pour ça que j'utilise... Maintenant, effectivement, il y a nécessité de travailler sur l'intérêt général au niveau européen parce qu'on a des définitions, j'allais dire sectorielles, de l'intérêt général. La définition de l'intérêt général dans le paquet Almunia qui repose sur la cohésion sociale, etc., en disant que c'est une particularité, en tout cas un élément fondateur du modèle social européen, n'est pas le même que celui qui résulte de la directive service, par exemple, et de la notion d'impérieuse d'intérêt général qui, elle, repose plus sur les problèmes de sécurité, environnement, etc. Donc il y a besoin de construire, de toute façon, cette notion au niveau européen, puisque souvent, dans les textes, on rencontre plus la notion d'intérêt communautaire que la notion d'intérêt général. La notion d'intérêt général, elle est venue finalement à travers les services, effectivement, d'intérêt général. Ça, c'est une première observation. Donc là, j'ai pas de difficulté. Mais par contre, là où on a une vraie difficulté, où il y a un vrai travail à faire, c'est que dans le cadre de la construction du marché, même si c'est les autorités publiques, comme le dit le protocole numéro 26 qui a été rajouté au traité, les autorités publiques nationales, régionales et locales qui définissent et fournissent les services d'intérêt économique général, de fait, dans le cadre du marché, il n'y a pas de subsidiarité. Parce que vous avez un concurrent qui a été évincé, qui peut toujours porter plainte, et votre marché ou votre attribution de services publics peut toujours être mise en cause. Donc il y a un problème de sécurité juridique réelle qui est posé et de travail pour avoir du droit positif communautaire, comme on dit, c'est-à-dire des lois communautaires qui permettent de sécuriser ça. En tout cas, de voir comment ça se passe et de voir comment les collectivités publiques, quel que soit au niveau considéré, peuvent agir pour ne pas avoir cette menace sur la tête et faire en sorte que quand ils ont attribué un service public à une entité quelconque, quelle qu'elle soit, publique, privée ou mixte, il n'y ait pas de risque important de recours et de remise en cause. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui n'est pas réglé, effectivement, au niveau européen. Sur co-construire. Alors, sur co-construire, il y a d'abord un vrai problème, à mon avis, de principe, j'allais dire politique. Nous devons aujourd'hui, compte tenu de l'état dans lequel nous avons atteint dans la construction européenne, l'état d'interdépendance dans le marché intérieur et tout, considérer que le niveau européen est un niveau de gouvernement comme les autres. Or ça, nous ne le considérons pas comme ça. C'est toujours quelque chose qui est au-dessus. Et tant que nous ne considérerons pas que c'est un niveau de gouvernement comme les autres auprès duquel il nous faut intervenir, on aura des difficultés et on se posera cette question-là. Alors après, effectivement, ça pose les questions de comment je peux intervenir à Bruxelles, puisque c'est à Bruxelles. Alors quand on est à Marseille et qu'on veut intervenir auprès du gouvernement français, c'est à Paris, et puis il faut aller encore plus loin quand c'est au niveau européen. D'une part, il y a les réseaux, effectivement, de villes, d'associations de nature diverse, dans lesquelles il faut peut-être être plus présent. Il y a un certain nombre de collectivités françaises qui ont réinvesti, par exemple, Eurocities, qui est un réseau de villes, après quasiment l'avoir abandonné, pour retravailler sur ces questions de services d'intérêt général, ça me paraît quelque chose de tout à fait important. Et il y a des batailles qui sont menées à ce niveau-là pour porter un certain nombre de choses au niveau communautaire et dans les instances. Ensuite, il y a des députés européens. Et il y a un travail à faire auprès des députés européens. Et quand on travaille avec les députés européens, l'accès des députés européens et du Parlement européen est plus facile que l'accès de l'Assemblée nationale ou du Sénat en France. Donc on peut dire des choses. Et par exemple, là, je vous ai cité le projet de règlement. Je pense qu'une association comme la vôtre doit intervenir, c'est-à-dire dire des choses et envoyer à la Commission son appréciation sur le projet de règlement. Et en général, quand la Commission adopte un texte, ça commence par un livre vert, qui est un livre général en annonçant qu'elle va faire quelque chose sur tel ou tel sujet et qu'elle ira dans telle ou telle direction, qu'elle pense des choses de telle et telle nature et qui est soumise à discussion et à contribution de tout le monde, tous les citoyens européens, toutes les associations, tous les États membres, etc. Il n'y a pas suffisamment de contributions. Rassurez-vous, vos concurrents privés, à travers Business Europe et à travers les bureaux de lobbying qu'ils ont à Bruxelles, eux interviennent et écrivent et font les couloirs dans la Commission. La société civile, en tout cas l'économie sociale et solidaire, on n'en voit pas beaucoup. Et elle n'a pas beaucoup de contributions. Nous, en tant que celle-ci, qu'on a pris l'habitude d'envoyer, de contribuer, de faire du lobbying sur les problèmes qui nous intéressent par rapport à l'intérêt général, mais ce n'est pas la majorité. Il y a quelques réseaux de la société civile, un petit peu la CES, la plateforme des ONG sociales, c'est très nettement insuffisant. Et sur 500 millions d'habitants, quand la Commission a 300 ou 400 contributions, elle trouve que c'est une très grande concertation qui a été obtenue. Donc, il y a possibilité d'intervenir à ce niveau-là. Après, elle fait la synthèse de ça. Et il y a un livre blanc avec à nouveau consultation. Et dans le livre blanc, elle dit plus précisément ce qu'elle veut faire. Elle donne les grands axes, les axes de ce que sera sa proposition de directive ou de règlement ou de proposition, etc. Donc il y a des possibilités de cette nature-là à intervenir. Et puis, il faut s'organiser pour avoir des réseaux, y compris européens, à Bruxelles, qui sont capables d'intervenir auprès des gens qui sont chargés de la rédaction des textes, etc. Un texte comme ça, auprès de la direction générale sur le marché intérieur et auprès de Barnier et de son cabinet, aurait très bien pu faire l'objet, compte tenu que c'était annoncé dans l'acte pour le marché unique de 2010, de propositions tout à fait nettes du réseau de l'économie sociale et solidaire portées à Bruxelles, avec une demande d'audience à Barnier, une demande d'audience à son cabinet, aller voir le fonctionnaire qui rédige ça, lui redomettre des documents, des textes, etc. C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc voilà, il y a des méthodes, je suis prêt à ce qu'on aille plus loin dans comment on peut procéder, parce que là il n'y a pas beaucoup de temps, mais il y a des possibilités. Alors je ne dis pas que c'est suffisant, ne me faites pas dire que la démocratie européenne est idéale, etc., etc. Ne me faites pas dire plus que je dis, mais je dis on peut réellement intervenir et on peut peser, hein, parce qu'une contribution intelligente, même d'un citoyen européen, peut avoir plus de poids qu'une contribution idiote du gouvernement français.
S'il y a un réseau européen des villes de l'économie sociale et solidaire, justement, y compris le siège est basé à Bruxelles.
Oui, je connais, oui.
Qui essaie de jouer un peu ce rôle-là, ce niveau. Puis c'est pareil, dans le cadre de la co-construction, on a une vision très franco-française de l'Europe et des aides européennes, ce qui n'est pas le cas de nos partenaires dans d'autres villes d'autres pays. Là aussi, quel regard tu es juste pour être très concret, c'est aujourd'hui le préfet de région qui parfois décide à qui attribuer tel ou tel truc, et en sachant que les fonds structurels européens ont fondu comme neige au soleil en France, alors que nos amis italiens ou dans d'autres pays de l'Union européenne ont s'y appris autrement aussi.
Oui, alors sur ce sujet-là, y compris quand j'étais en fonction, en tant que fonctionnaire, j'ai toujours conseillé aux collectivités locales de désobéir. C'est-à-dire de passer par-dessus le préfet et d'aller voir directement à Bruxelles. Voilà. Et peut-être faudrait qu'enfin, les collectivités locales, à tous les niveaux, se comportent comme des majeurs et non pas comme des enfants de 5 ans qui récriminent contre papa et maman État. Je le dis un peu comme ça, mais c'est quand même un peu ça. Quand même un peu ça. Donc, soyez des adultes responsables. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi à Bruxelles. On y va en toute responsabilité. On n'y va pas en se cachant. Mais on sait dire au préfet, non, c'est mon dossier, ça m'intéresse, donc je vais voir la personne qui en est chargée. Que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas. Et on verra bien s'il vous met en prison.
Non, mais c'est ce qu'on fait par ailleurs, je trouve ça que...
On prend la dernière question et puis je dirai un mot de conclusion.
C'est la faille de l'UNIOPS, conseillère technique Europe. Donc l'UNIOPS, ça regroupe une grande partie des organisations privées sanitaires et sociales non lucratives. Je vous rassure, nous, on répond aux consultations.
Oui, non, mais je sais. Oui, non, mais je sais que l'UNOPS intervient, parce que, y compris votre manifeste, j'ai travaillé avec Carole à l'époque dessus, donc je connaissais bien Carole, donc c'était pas... c'est pas... Oui, il y a des réseaux, heureusement, mais plus il y a de réseaux, plus on a intervention, mieux c'est, parce que le poids relatif, quand vous travaillez sur ces questions-là, économie sociale, services publics, les problèmes sociaux, etc., vous avez du mal quand vous faites des réunions, que ce soit au Parlement, à Bruxelles, mais je vais dire deux mots sur Bruxelles et Luxembourg et Strasbourg, que ce soit au comité économique et social et tout, vous avez du mal à avoir, non pas quelqu'un de la commission, mais un commissaire. Il y a même le commissaire concerné. Si vous allez à la réunion de Business Europe, de la table ronde des entrepreneurs, etc., vous avez 7, 8, 10, 15 commissaires. Et donc les rapports de force ne sont pas de même nature. Et c'est pour ça qu'il faut le maximum d'intervention de réseaux de la société civile, d'entreprises comme les vôtres, etc., qui travaillent sur le social, parce que le social, même si dans le traité de Lisbonne a été introduite une clause transversale sur le social qui dit que normalement toutes les politiques communautaires doivent traiter et doivent prendre en compte les problèmes sociaux, on en est encore loin compte tenu de ce qui est d'une part le résultat du suffrage universel au niveau européen à travers le Conseil, qui est majoritairement de droite et conservateur, et donc la Commission qui est majoritairement de droite et conservatrice. Et dans son acte unique pour le marché intérieur, Barnier avait fait des propositions pour avoir une législation sur les services publics plus approfondie et une conception plus approfondie de services d'intérêt général au niveau communautaire. Il s'est complètement fait ramasser par Barroso personnellement. Et il n'y a quasiment rien dans les 35 en deux propositions sur le service public. Il y en a simplement une. Donc, et une toute petite qui est une nouvelle communication. Donc, encore un texte de général, mais pas du droit tel qu'on en a besoin. Donc, on a besoin effectivement de plus d'interventions. Et je pense que pour l'instant, encore, l'économie sociale est insuffisamment présente, même s'il y a des interventions comme l'UNIOPS. Parce que l'UNIOPS, elle a intervenu, mais sous son secteur, par définition. D'activité, qui est le secteur social, là où il faut où les entreprises, en fait, les organisations qui adhèrent à l'UNIOPS interviennent. Mais on voit bien que c'est plus large. Et il ne faut pas réduire, parce que la tendance que l'on a maintenant sur les services sociaux d'intérêt général, finalement, la conception communautaire qui risque d'émerger, c'est que c'est uniquement l'aspect caritatif qui va dominer. On s'occupe uniquement des pauvres et des plus pauvres. Donc il faut élargir. La conception que nous avons du service public ou du service d'intérêt général, c'est quand même pas tout à fait celui-là. Voilà, donc c'est vrai que dans les marchés publics, il est possible d'avoir aujourd'hui des clauses sociales et des clauses environnementales, sauf que encore les autorités publiques hésitent parce qu'elles elles craignent d'aller vers le mieux-disant plutôt que le moins-disant. Hein. Voilà. Et alors sur Strasbourg... Oui, bien sûr, le Parlement, le siège officiel est à Strasbourg, sauf que tout le travail de commission, tout le travail d'élaboration se fait à Bruxelles, dans les locaux du Parlement à Bruxelles. Voilà, c'est la réalité. Oui, mais hein, j'ai beaucoup, comme ils sont que 4 jours, même pas 3 jours maintenant à Strasbourg par mois, le reste du temps à Bruxelles, l'essentiel du travail se fait à Bruxelles. Mais oui, officiellement c'est Strasbourg, mais enfin on peut dire Bruxelles et Strasbourg, mais enfin, bon, peu importe, c'est quand même les instances communautaires.